franceinter.fr.
Bonjour à tous. C'est une émission spéciale que nous vous présentons ce dimanche dans l'espace d'Interception. Spéciale pour deux raisons. Elle est consacrée au changement climatique. Dans quelques jours, s'ouvre à Paris la grande conférence internationale. On en avait évoqué la possible annulation au moment des attentats du 13, mais vous savez que le président de la République lui-même a tenu à souligner combien il était important qu'elle se tienne. Émission spéciale aussi parce qu'elle est proposée et fabriquée par quatre radios publiques de langue française. La radio suisse, la RTS, la radio belge, la RTBF, Radio-Canada et vos serviteurs de Radio France. Et c'est tout l'avantage de cette formule, c'est qu'elle permet de s'éloigner un petit peu d'une vision nationale du problème pour aller voir aussi ce qui se fait ailleurs pour lutter contre ce réchauffement de la planète. Notre première étape est la plus lointaine. Nous partons au Canada, dans la province de la Saskatchewan. Nous sommes dans les grandes plaines de l'ouest du pays, tout près de la frontière avec les États-Unis. Et nous posons une question forcément provocante. L'énergie issue du charbon peut-elle être propre ? Notre consoeur de Radio-Canada, Jacques-Audrey Charbonneau, nous conduit vers une installation unique. C'est une centrale à charbon gigantesque, mais depuis un an, elle utilise un procédé qui permet de capter et de stocker le dioxyde de carbone qu'elle rejette.
Octobre 2014, l'attention d'une vingtaine de pays est tournée vers le Canada. Près de 200 de leurs délégués assistent à une première mondiale dans un modeste coin du centre du pays. Estevan, dans la province de la Saskatchewan, une petite ville située tout près de l'État américain du Dakota du Nord, un paysage fidèle aux prairies canadiennes, des plaines à perte de vue. Il vente fort et constamment. Rien à l'horizon sauf une centrale au charbon sur laquelle carbure l'économie de la ville. De l'extérieur, rien de plus normal pour une centrale thermique, un énorme édifice de 9 étages, d'immenses cheminées qui crachent à profusion du CO2, l'ennemi numéro un de notre planète au plan environnemental. Une chose diffère toutefois. Il s'agit de l'un des plus importants dispositifs au monde de captage et de stockage de CO2 sur une centrale au charbon. L'idée est simple, retourner le CO2 là où on l'a pris, c'est-à-dire profondément dans le sol.
It's clean coal. People just don't believe it. Well, they can believe it. Today. Thank you very much.
Nous pouvons désormais parler du charbon comme d'une énergie propre, a déclaré à ce moment-là le premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall. Mais comment parler d'énergie propre avec le charbon, alors qu'il s'agit de l'une des formes d'énergie les plus abondantes, mais aussi et surtout des plus polluantes? À l'intérieur, machinerie gigantesque, turbines, refroidisseurs, compresseurs, un véritable labyrinthe de conduites et de tuyaux. Mike Monea de la société d'État Sask Power dirige le projet. Il explique comment on retourne le CO2 dans le sol.
This is, the reclaimer.
Ce qu'on voit ici, c'est le régénérateur. C'est là que le CO2 qui a été capturé dans l'absorbeur est transformé. Un absorbeur, comme vous le voyez, qui est de plus de 175 pieds de hauteur. Le CO2 est alors comprimé, refroidi et transformé en liquide pour ensuite être transporté par gazoduc et enfoui dans le sol.
Une opération complexe, mais qui, de façon optimale, pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de la centrale de plus de 90 %. Bien que le concept sous différentes formes trotte depuis des décennies dans la tête des chercheurs de nombreux pays, c'est ici, à l'Université de Regina, que le rêve du charbon propre a été en partie réalisé.
Des solvants qui sont utilisés à Saskpower, dans la première usine au monde, ont été testés dans notre laboratoire.
Scientifique d'origine algérienne, Amar Hani se spécialise dans le captage du CO2 depuis plus de 25 ans.
Ça, c'est notre building. Ça, c'est le PTRC, Petroleum Technology Research Center. C'est le fer de lance du gouvernement. Le gouvernement est vraiment très fier de deux choses, de ITC et de PTRC. On est une petite province, donc il n'y a pas beaucoup d'argent à dépenser. tout l'argent du gouvernement provincial et fédéral vient ou bien au PTRC ou bien
dans à ITC. Pétrole.
Dans le pétrole et dans le CO2, dans les gaz à effet de serre.
Alors là, on s'en va où?
On s'en va à l'usine de captage. C'est l'usine pilote. Ça commence au sous-sol.
Vice-recteur de la faculté de génie de l'Université de Regina, Hamar Hani est un des rares à se spécialiser dans la gestion du carbone.
Je passe beaucoup plus de temps au laboratoire qu'à la maison. Oui, donc c'est une passion pour la recherche en général, mais le CO2 parce que...
Mais le captage et le stockage du CO2 sont loin de faire l'unanimité. Lorsque les gouvernements du Canada et celui de la province ont lancé le projet en y investissant près $1,5 milliard, des environnementalistes s'y sont objectés. Steven Guilbeault, du groupe écologique québécois Équiterre.
Tant d'un point de vue climat que d'un point de vue économique aussi, parce que les centaines de millions qu'on a mis dans certains de ces projets-là au Canada, c'est des centaines de millions qu'on n'a pas mis dans des technologies qui fonctionnent aujourd'hui, en efficacité énergétique. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine?
Mais cesser l'utilisation des carburants fossiles n'est pas pour demain. Entre-temps, explique Hamar Hani, il faut des moyens pour minimiser leur impact. Il faut des technologies de transition.
Je crois que tout le monde sait qu'à court terme, c'est la solution unique. Il faut capter le CO2 et puis l'injecter.
Or, un peu partout dans le monde, plusieurs projets de captage et de stockage de CO2 ont déjà échoué. Trop compliqué, trop énergivore, mais surtout trop coûteux. Alors pourquoi SaskPower s'en sort mieux que les autres? C'est que la société d'État n'enfouit pas tout le CO2 capté. Elle en vend, puisqu'il est parfois nécessaire à l'extraction du pétrole. Les compagnies pétrolières en achètent. De là la controverse, capter le carbone pour continuer à exploiter des gisements pétrolifères. Steven Guilbeault, du groupe écologique québécois Équiterre.
Pour nous, c'est un peu une fuite par en avant. C'est-à-dire que c'est de chercher des solutions qui vont nous permettre de continuer à brûler du pétrole, du charbon, du gaz naturel, alors que la science est assez claire. Il faut arrêter, il faut réduire notre consommation.
Un an s'est écoulé depuis la mise en marche de la génératrice au charbon dit « propre » et l'engouement international n'a pas diminué.
For people like me who want to create more energy independence.
Le 26 août dernier, des politiciens américains débarquent. Lindsey Graham, candidat à l'investiture républicaine et sénateur américain, visite la centrale.
This plant makes eminent sense.
Moi, cette installation, c'est l'avenir, surtout pour ceux qui veulent diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
And lower our carbon emissions.
Un intérêt qui réjouit le directeur du projet, Mike Monea.
Nous sommes devenus un véritable site touristique. C'est fantastique.
Fantastique, peut-être, mais le mois dernier, on apprenait que la technologie de captage et de stockage de SaskPower ne répond pas aux attentes. De sérieux problèmes d'ingénierie et de design expliquent ce rendement décevant. Pour les uns, c'est la preuve qu'on a fait un mauvais choix. Et pour les autres, ce n'est qu'un retard légitime dans la course au charbon propre.
Nous quittons le Canada et son pari sur le charbon propre pour revenir sur le continent européen, en Suisse. Comme la France, la Suisse a largement recours au nucléaire. Le nucléaire, c'est 40% de sa production d'électricité. Mais elle a l'intention d'en sortir au plus vite. Nos voisins utilisent depuis longtemps l'énergie hydraulique. Elle est abondante, elle est pas chère, en raison des nombreux cours d'eau engendrés par le relief. Les barrages sont très nombreux dans le pays, mais leur nombre n'est pas extensible. Alors il faut trouver d'autres façons d'utiliser l'énergie de ces cours d'eau. Nous partons dans le canton du Valais, au sud de la Suisse, pour découvrir un chantier souterrain pharaonique, celui de Nant-de-Drance. Nous sommes guidés par Marie Giovannola, notre consoeur de la radio-télévision suisse.
45 minutes de train depuis la plaine, quelques kilomètres à bord d'une jeep dans d'interminables galeries. Nous voici dans les entrailles de la terre, là où se construit depuis 7 ans une centrale de pompage-turbinage. Cette installation sera lors de sa mise en fonction en 2018 l'une des plus importantes d'Europe avec une puissance de 900 MW, l'équivalent de la centrale nucléaire de Gösgen. Investissement 2 milliards de francs. Découverte de ce chantier souterrain pharaonique, dont la caverne principale qui peut contenir 2 terrains de football, en compagnie d'Éric Vuilloux, directeur de la société Nantes Drance.
Bon, ici, on est au cœur du projet, c'est la caverne principale où il y aura les 6 machines. Et comme vous voyez, initialement, quand on l'a excavée, elle faisait 52 mètres de haut, 32 mètres de large et presque 200 mètres de long.
À quelle profondeur on se trouve ?
Eh ben, au-dessus de nous, il y a 600 mètres de roche. Il y a le lac supérieur qui se situe à notre gauche, environ 400 mètres plus haut qu'ici. Et à notre droite, environ 100 mètres plus haut qu'ici, il y a le barrage des Moissons.
Et ces machines, elles serviront à quoi ?
Ben, ces machines serviront à faire le pompage-turbinage, c'est-à-dire à stocker l'énergie lorsqu'il y en a trop sur le réseau, pomper l'énergie du lac inférieur au lac supérieur, et de la turbiner lorsqu'il n'y en a pas assez sur le réseau, de turbiner du lac supérieur au lac inférieur. Ce sont des machines très très flexibles qui pourront en quelques minutes changer de régime et s'adapter vraiment à la consommation et à la production.
Après la visite du cœur du projet, sous terre, notre véhicule traverse une conduite qui sera à terme remplie d'eau et nous retrouvons l'air libre au pied du barrage du Vieux-Émeusson à plus de 2000 mètres d'altitude. 1000 mètres de dénivelé ont été avalés depuis notre entrée dans les galeries. Dans moins de 3 ans, la centrale de Nantes-Drance devrait être opérationnelle. Pourtant, Éric Vuilloux nous confie que si le projet devait être lancé aujourd'hui, les difficultés actuelles du marché de l'hydroélectricité l'auraient peut-être enterré.
Finalement, c'est les actionnaires qui nous ont donné le feu vert pour ce projet, mais je pense qu'aujourd'hui, si la décision devait se prendre aujourd'hui, le projet serait mis en stand-by, comme c'est le cas d'autres projets en Suisse, de pompage-turbinage. Mais maintenant, on est suffisamment avancé, il n'y a plus de raison d'arrêter ce projet.
Est-ce qu'une fois terminé, il sera rentable ?
Peut-être à court terme, non, mais disons que la concession que nous avons obtenue pour cet aménagement, c'est 80 ans. Et nous sommes persuadés que dans le futur, le marché va de nouveau se stabiliser, retrouver une situation normale et que l'aménagement Nantes-Drance sera utile pour alimenter le réseau européen.
3/4 des aménagements ne couvrent pas leurs coûts de production. Comment s'en sortir pour l'hydraulique aujourd'hui ?
Pourquoi est-ce qu'ils ne couvrent pas les frais ? C'est parce que nous estimons qu'il y a peut-être un petit peu une égalité de traitement par rapport aux nouvelles énergies renouvelables qui sont subventionnées, alors que l'énergie hydraulique, qui est aussi une énergie renouvelable, n'est pas subventionnée. Bien qu'on ne soutient pas trop des appuis financiers, mais peut-être qu'il y aurait des possibilités d'obtenir des prêts à intérêt avantageux de la part de la Confédération.
Retour en plaine à Sion pour y rencontrer le président de la capitale valaisanne, Marcel Maurer, ingénieur électricien de formation. Sa ville possède plusieurs participations dans des aménagements hydrauliques et pendant des décennies, l'argent coulait à flot grâce à l'or bleu.
Ça a des conséquences très directes sur les finances publiques puisqu'on avait la chance avec ce portefeuille de production qui était quand même un risque à l'époque d'engager des moyens financiers pour construire ces barrages. Pendant des années, finalement, cette production a amené des revenus qui ont permis à cette ville de se développer. Aujourd'hui, elle est privée de 10 millions. Pour prendre un exemple, le budget de la ville prévoit 23 millions d'investissements, c'est juste la moitié, donc c'est conséquent.
10 millions de perdus sur quelle durée ?
Depuis maintenant 4 ans, ce revenu a dégringolé de 10 à 0. Donc aujourd'hui, on a prévu pour les 4-5 prochaines années dans la planification financière de la ville, on n'a mis aucune recette liée à la production d'énergie. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de devoir démanteler des aménagements de qualité qui ne peuvent pas rester plusieurs années en étant sous critique.
Et donc là, le seul moyen d'éviter le démantèlement de ces aménagements historiques, c'est des subventions qui viendraient de la Confédération.
Ça paraît logique. Si l'Allemagne subventionne massivement son photovoltaïque et puis que la Suisse ne subventionne pas son hydraulique pour permettre l'équilibre, c'est l'hydraulique qui va payer le prix et ça serait très dommageable pour notre pays.
Subventionner l'énergie hydraulique, cette piste est désormais envisagée par les élus fédéraux dans le cadre de la stratégie énergétique 2050, une stratégie qui doit permettre au pays de sortir progressivement du nucléaire.
Nous avons analysé différentes pistes, ainsi que les producteurs aussi d'électricité hydraulique. Et malheureusement, nous sommes arrivés à la conclusion qu'au vu des distorsions de marché qui existent aujourd'hui, eh bien, il n'y a, pour une période transitoire, aucune autre solution. Yannick Butet, conseiller national, membre de la Commission fédérale de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie.
À quelle hauteur on peut imaginer ce subventionnement ?
À l'heure actuelle, c'est assez difficile à dire. Nous allons prélever sur l'ensemble des kilowattheures consommés en Suisse 0,2 centimes, de manière à les reverser à la force hydraulique. C'est ou ce subventionnement ou la mort de certains ouvrages hydroélectriques, la perte de compétences, la perte de capacité de stockage et finalement un handicap pour l'avenir de l'énergie dans notre pays.
Pour prendre ce virage énergétique, il y a de nouveaux projets rares comme la centrale de pompage-turbinage de Nantes-Drance, mais il y a aussi et surtout un parc d'installations hydrauliques existantes qu'il s'agit d'entretenir. Nous nous trouvons à La Souste, dans le Haut-Valais, à proximité d'un aménagement au fil de l'eau, le Rhône en l'occurrence, avec Paul Michelot, directeur des Forces Motrices Valaisannes, société en main publique active dans la production d'hydroélectricité. Et pour maintenir cet acquis, on investit car on a confiance en l'avenir.
Le principe de base, c'est donc, dans cet aménagement, de dériver latéralement l'eau qui s'écoule naturellement dans le fleuve, dériver ça à flanc de coteau sur environ une dizaine de kilomètres, créer ainsi un différentiel de niveau entre l'eau et l'usine, et pour pouvoir turbiner 8 km à l'aval et environ 100 mètres plus bas, l'eau qui est ainsi dérivée pour faire tourner des turbines qui produisent, elles, de l'hydroélectricité. Les aménagements type fil de l'eau ont pour vocation d'assurer la production de base, donc ils produisent en permanence, ils produisent jour et nuit. Ensuite, c'est un aménagement bientôt centenaire, donc c'est une technologie qui est maîtrisée, qui est performante, qui est également renouvelable. Donc évidemment que l'hydroélectricité de cette nature-là a une pérennité que nous devons aujourd'hui assurer. Donc évidemment que nous devons également développer de nouvelles technologies, mais notre credo actuel, c'est de dire maintenons également l'existant en investissant dans les aménagements existants.
Rentabilité, rentabilité. Même en ces temps de grandes déclarations, de grands engagements pour la planète, les notions de coûts et de bénéfices ne sont jamais très loin. Ainsi en France. On ne peut pas dire que notre pays soit encore très en pointe sur les énergies renouvelables. Le poids historique du nucléaire n'a pas aidé à la créativité dans ce domaine. Malgré tout, la France s'est engagée à augmenter de 40% la part des énergies renouvelables dans sa production d'électricité dans les 15 ans qui viennent. Pour cela, la France mise sur ses côtes. Deuxième domaine maritime du monde derrière les États-Unis, elle possède 3700 km de littoral. Dans les années 60, l'usine marémotrice de la Rance a ouvert la voie. Aujourd'hui, place aux hydroliennes. Nous prenons la direction de Bordeaux pour découvrir une installation expérimentale quasiment au cœur de la ville, au milieu de la Garonne. C'est un reportage d'Annette Hardisson, prise de son Fabien Gosset.
C'est la balise verte, c'est ça ?
Non, elle est derrière. Vous pouvez pas la rater quand on va se diriger vers elle. On va se dire, ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ressemble à un bateau, c'est pas un bateau. Donc on a une petite plate d'ostréiculteurs avec très peu de tirant d'eau pour pouvoir aller rapidement intervenir sur la bête.
Nous embarquons sur la Garonne, rive droite, à hauteur du pont d'Aquitaine, c'est-à-dire à l'entrée nord de Bordeaux, côté estuaire.
On largue les amarres.
Samuel Lauret, ingénieur électricien, est notre guide. Quelques 400 mètres plus loin, voici l'hydrolienne. À l'approche, elle ressemble bien à un bateau. Un flotteur de 10 mètres sur 4,50 mètres, avec au centre une hélice de 3,50 mètres de diamètre.
Et hop, on y est. Donc, bienvenue à bord.
Vous amarrez la plate à la plateforme ?
Oui.
Et vous travaillez dessus comme sur un catamaran ?
Oui. Eh bien, je vous invite à monter. Soyez les bienvenus, faites attention, hein, visez bien l'endroit où la plateforme
là.
Impeccable. Donc voilà, on est sur l'hydrotube H3. Donc on peut constater quand même que bon là, il y a un peu de clapot à cause du vent, mais au niveau des extrémités de la machine, on se rend bien compte du courant, ça défile vraiment vite et on a vraiment cette sensation de puissance quand on est à bord, quoi. Là, actuellement, la machine elle est en position relevée, donc en position de maintenance, avec un accès aux pales, un accès aux bulbes. Là, on s'aperçoit bien que les tripales sont vraiment camouflées derrière les grilles et les jupes latérales. Si on décide de la mettre en position de production, on active les treuils et le mât descend le long des deux paliers. Hein, et donc, on libère ensuite l'hélice une fois qu'elle sera raccordée à l'electric box là-haut. Et c'est parti.
Pour l'instant, cette hydrolienne n'est pas encore accordée au réseau. Ce sera l'étape suivante, sur un autre site, en 2016. Aujourd'hui, ces ingénieurs la peaufinent et enrichissent leur expérience. Retour à notre point de départ, au chantier naval de Bordeaux, où sont installés les bureaux de la société Hydrotube. Bien pratique, en rive de fleuve, et aussi pour bénéficier du savoir du chantier. Grande ambition, mes bureaux modestes, 5 personnes pour l'instant. 4 ingénieurs et le patron, Franck Joigny.
C'est effectivement une petite entreprise, un projet ambitieux, puisque c'est la conception et la fabrication d'un prototype d'hydrolienne particulièrement destiné aux fleuves et aux fleuves africains dans un premier temps, puisque c'est une machine qu'on a voulu robuste, capable de fonctionner pendant des années et de produire un kilowatt le moins cher du marché.
Marc Joigny et son équipe pensent qu'à terme, leur hydrolienne sera parfaite sur le fleuve Congo. Mais s'ils sont à Bordeaux, c'est parce que la Garonne s'y prête, mais aussi l'environnement industriel. La région Aquitaine bénéficie du savoir-faire de l'aéronautique dans le domaine des matériaux composites, par exemple. Et puis Bordeaux est l'un des 5 sites français retenus pour tester les énergies marines renouvelables. Un site dédié aux hydroliennes, justement, baptisé Cénéo. Il est porté par un cabinet local d'ingénierie, Énergie de la Lune, et un passionné, Marc Lafosse, ancien nageur de haut niveau, océanographe et bordelais, bien sûr.
On a la chance à Bordeaux d'être au bord d'un estuaire assez incroyable, puisque les marées sont extrêmement fortes. Et donc, on s'est rendu compte qu'au niveau de Bordeaux et au niveau du pont de Pierre, dans le port de la Lune, il y a des courants extrêmement forts et qu'on pouvait y installer à cet endroit-là des hydroliennes, qui sont des sortes d'éoliennes que l'on met sous l'eau, qui vont capter l'énergie des courants qui descendent avec la marée descendante et qui montent avec la marée montante.
Marc Lafosse est aussi un écologiste convaincu. D'ailleurs, son bureau est installé dans un endroit étonnant, une ancienne caserne reconvertie en pépinière d'entreprise spécialisée dans le développement durable. Un plateau où les seules séparations sont faites de palettes et de meubles de récupération. Une philosophie parfaitement en phase avec la vocation du site d'essai.
Notre intérêt dans cette aventure, c'est d'être au milieu de cette émergence, de cette nouvelle aventure technologique, pour en assurer notamment le suivi d'impact environnemental, c'est-à-dire comment se comportent des poissons qui passent à proximité de cette hydrolienne. Est-ce que cette hydrolienne fait du bruit dans l'eau? Est-ce que les ondes électromagnétiques qui naissent au niveau de la génératrice de l'hydrolienne perturbent les mammifères? Et donc on s'est intéressé, avec de nombreux industriels privés et les collectivités territoriales, notamment la région Aquitaine et la métropole, à pouvoir accueillir un site d'essai, un site qui permettra à des développeurs d'hydroliennes, des gens qui les construisent, on en a aux quatre coins du monde, il y en a à peu près 150 différentes d'hydroliennes dans le monde, de pouvoir accueillir ces machines pour pouvoir les tester.
Le pont de Pierre, qui date de Napoléon III, est situé au centre de Bordeaux. D'ailleurs, le tramway y passe. Le fleuve subit l'effet des marées et l'eau s'engouffre sous les arches, d'où l'intérêt du site. Intérêt économique aussi pour l'agglomération bordelaise. Anne Valric est vice-présidente de Bordeaux Métropole.
Ce sera le seul site sur un plan mondial qui sera implanté en milieu estuarien, au cœur d'une ville de 250 000 habitants et d'une métropole de 750 000 habitants. Et qui permettra, une fois que les hydroliennes vont être connectées au réseau, c'est-à-dire dès le mois de juin 2016, d'alimenter à peu près l'équivalent du besoin annuel de 150 à 200 foyers.
Et c'est aussi pourquoi les Bordelais ne se contentent pas de regarder passer l'eau sous les ponts.
Nous quittons l'estuaire de la Gironde pour remonter toute voile dehors vers le nord, au large de la Bretagne et de la Normandie, et pour un projet d'une toute autre échelle. Il s'agit de l'installation de prototypes d'hydroliennes qui, si elles donnent satisfaction, préfigurera l'immersion de centaines de ces machines dans l'avenir. La visite commence dans le cadre extraordinaire de la Cité de la Mer à Cherbourg. C'est l'ancienne gare des Transatlantiques. Le public peut y découvrir une pièce tout à fait unique. C'est toujours Annette Ardisson qui nous guide, en compagnie cette fois de Benjamin Chauvin à la prise de son.
Vous avez ici la première hydrolienne qui a produit de l'électricité en Royaume-Uni. Donc c'était en 2008. Elle a été installée en Écosse dans un site spécial qu'on appelle l'EMEC, qui est un site où on teste les hydroliennes. C'est une hydrolienne qui fait 6 mètres de diamètre.
Là, on pourrait presque dire que c'est un bébé d'exposition.
Oui, c'était la première série prototype. Et ensuite, il y a eu une évolution vers des machines qui sont maintenant de taille industrielle, qui vont permettre de produire jusqu'à 2 MW par machine, et qui sont des machines de 16 mètres de diamètre. Alors 16 mètres de diamètre, c'est l'équivalent d'un immeuble de 5 étages, pour bien se représenter ce que c'est. Et donc aujourd'hui, on a déjà installé une de ces machines sur un site en Bretagne, qui est un site qui est développé par EDF, à Paimpol-Bréa.
On pourra aller la voir ?
Alors oui, vous irez voir la deuxième génération qui est en train d'être construite à Brest, et également à Cherbourg, on va voir la partie rotor de cette hydrolienne.
C'est-à-dire la turbine ?
c'est-à-dire le cœur de la turbine.
Christophe Chabert est le directeur d'Open Hydro France, une société irlandaise rachetée par DCNS qui a conçu et développe ce type d'hydrolienne. Et même quand on est le patron, on n'entre pas sur le chantier naval comme dans un moulin. Top secret.
Toutes les personnes des CNS ont un papier avec leur photo.
Je vous dis, c'est la première fois qu'on demande ça depuis 10 ans.
Chaque arsenal a son droit sur tout.
Voilà.
Ok. C'est bon. Vous pouvez noter juste ici votre compte.
Nous voilà donc sur le site. Enfin, presque. Parce qu'il faut revêtir la tenue réglementaire.
Alors, vous prenez une paire de chaussures, il y a des combis derrière et des casques en hauteur.
D'accord.
Voilà. Vous pouvez laisser vos affaires ici, ça, c'est sécurisé, hein, donc il n'y a pas de problème.
Si c'est sécurisé comme ça ici, qu'est-ce que ça doit être là où il y a des sous-marins alors ?
Ben ici, on a construit et on peut construire aussi les sous-marins là où il y a l'hydrolienne. À d'autres endroits sur cette base, donc on est à DCNS Cherbourg, qui est une base où il y a 2200 personnes, qui est aujourd'hui réalise et construit l'ensemble des sous-marins pour les marines que DCNS, qui DCNS vend des sous-marins. Et donc, dans cette partie, on a réservé une petite partie, justement, pour pouvoir assembler nos hydroliennes et réaliser notre hydrolienne. Donc, c'est fait un petit îlot au milieu de ce monde où on construit aujourd'hui les sous-marins, un petit îlot pour utiliser les compétences des personnes qui sont sur ce site-là pour pouvoir assembler les hydroliennes. Et c'est ce que l'on va voir maintenant.
Reste par là. Bonjour, tout le monde. Bonjour, tout va bien ? Il est
pas là,
Mathieu ?
Si, il est dans le coin, toujours.
Bonjour. On est ici au cœur du chantier de réalisation du rotor de l'hydrolienne. On est vraiment en plein milieu de cette réalisation industrielle. Vous voyez ce grand cercle de 16 mètres de diamètre avec les pales à l'intérieur. On a ici donc les premiers rotors, les premières pièces hydroliennes qui sont construites à Cherbourg. L'étape d'après, c'est que ce grand cylindre sera ensuite usiné, plus précisément, dans des machines qui sont dans un autre endroit de DCNS Cherbourg, dans lequel on fait également des anneaux de sous-marins et pour lequel on va effectivement utiliser le savoir-faire que DCNS a pu avoir dans le domaine des sous-marins pour pouvoir utiliser ces machines et pouvoir réaliser et terminer le rotor de l'hydrolienne.
Et c'est précisément pour ce savoir-faire qu'EDF s'est associé avec les chantiers navals sur ce projet. Pierre Guitéron est directeur des énergies nouvelles.
En 2007-2008, nous nous sommes rapprochés de DCNS, puisque en fait, l'activité énergie renouvelable jusqu'à présent est vraiment une activité terrienne, avec l'éolien terrestre, le photovoltaïque. Donc la mer, c'est vraiment quelque chose que nous, EDF, groupe EDF, ne connaissions pas du tout. Et donc l'étape importante de cette aventure industrielle, ça a été la prise de participation dans Open Hydro, société irlandaise, puis progressivement la prise de contrôle d'Open Hydro. Donc là, on commence à rentrer dans des opérations beaucoup plus lourdes en termes industriels et en termes de projets, puisque d'ici la fin de l'année, deux turbines hydroliennes seront installées sur le site de Paimpol-Boreas, qui produiront cette fois-ci une puissance de 2 MW chacune. Donc on passe sur des opérations industrielles lourdes.
Paimpol-Boreas, c'est le site de démonstration d'EDF, là où on teste les prototypes, leur résistance, leur capacité de production une fois raccordée au réseau, l'impact environnemental. Mais c'est au chantier naval de Brest que les machines sont assemblées. L'une des deux turbines vient d'être terminée, prête à prendre la mer sur sa barge, direction Paimpol. Juste avant qu'elle ne quitte l'atelier, Christophe Dorignac, le chef de chantier, nous a permis de la voir de l'intérieur.
Donc je vous propose qu'on rentre au cœur même de la turbine, de manière où on rencontre un des dimensions, des poids et des précisions que nous avons besoin de viser pour construire et valider cette turbine.
On vous suit.
Thierry Calanquin, directeur des énergies et des infrastructures marines de DCNS, nous accompagne.
Ah oui. Évidemment. Là, on est dans les grandes dimensions. On a l'impression d'être un peu environné de requins. Noir et blanc. Alors, ce modèle, monsieur Calanquin, on a vu le bébé hydrolienne hier au musée de Cherbourg. Hein. Ce modèle, c'est le deuxième, c'est pas le définitif.
C'est un modèle définitif dans sa taille, c'est-à-dire que c'est la taille industrielle du modèle aujourd'hui que nous allons mettre à l'eau. C'est le premier de série industrielle, donc il n'est pas définitif parce qu'on a encore des détails à perfectionner, mais la structure de la turbine, sa taille, les pales, toute l'architecture de cette turbine-là est définitive.
Alors là, on est donc un diamètre toujours aux alentours de 15-16 mètres, c'est ça ?
On est sur un diamètre de 16 mètres, donc on est au cœur de la turbine, donc on peut s'imaginer au milieu du courant, hein, au milieu de ces énormes courants à 3-4 mètres secondes, et donc on serait en train de passer à la vitesse de l'éclair à travers, si on est dans le courant, à travers cette turbine.
Sur une hauteur de, ça fait combien là ? 5 étages ?
Là, on est de l'ordre de 3 à 4 étages, oui, si on fait un équivalence.
Imaginez maintenant cette grande roue, cette masse de 300 tonnes, acheminée à l'horizontale jusqu'au bassin, de l'autre côté du bâtiment, positionnée sous un immense portique avec une grue qui va la relever, lui faire un mi-tour pour l'emboîter sur ses fondations. Des structures métalliques remplies de béton qui vont stabiliser la machine au fond de l'eau. Une solution gravitaire, autrement dit la turbine tient par son propre poids, qui a séduit EDF, Pierre Guitéron.
Un des gros avantages de la technologie de DCNS, c'est précisément de permettre de ne pas avoir de bétonnage des fonds marins, puisque en fait, la turbine hydrolienne de DCNS est posée sur le fond. Donc c'est une barge qui est tirée par des remorqueurs sur lequel a été chargée l'hydrolienne au port. Et la spécificité de la technologie des CNS et Open Hydro, c'est de couler l'hydrolienne, donc l'ensemble turbine plus sa base, plus sa fondation, sur les fonds marins. Donc il n'y a pas de bétonnage des fonds marins, et d'ailleurs l'hydrolienne peut être ensuite retirée, c'est-à-dire qu'on est dans une réversibilité totale, l'hydrolienne peut être retirée et ramenée au port.
Une facilité d'installation adaptée aux conditions extrêmes, dans des endroits où les courants sont si forts qu'on ne peut y travailler que 2 heures par jour. C'est le cas au Raz Blanchard, entre la pointe de la Hague et l'île anglo-normande d'Origny, où sera installée dans 3-4 ans la ferme pilote. Daniel Lefebvre, président du comité des pêches de Basse-Normandie, peut témoigner de la violence du courant.
Bah, c'est impressionnant, hein. Pour vous dire, moi j'ai navigué effectivement dans le Raz Blanchard, mais navigué seulement, j'ai jamais travaillé dans le Raz Blanchard parce que j'ai toujours fait que la grande pêche, moi. Mais je peux vous assurer, déjà, naviguer dans le Raz Blanchard, de mauvais temps, avec des courants importants, ça peut être sanglant, hein. Ça peut être sanglant, les dégâts. S'il y a des mauvais temps de surroît avec, des grands coefficients de marée, ça peut multiplier par 2, 3, voire 4 le courant, quoi.
Ça fait quel effet quand on le voit passer ?
Ben, ça bouillonne, hein, quand on rentre de pêche, qu'on est de loin, et quand on était contre le courant et contre la marée, on fait du surplace pendant 3 heures. Il faut attendre que la marée reprenne pour nous renvoyer. Quoi. Donc voilà, ça peut aussi être impressionnant quand ils auront testé tout ça. Quoi. Les courants sont tellement violents que les cailloux, tout ça, ça décolle du fond. Hein. C'est pas des petits cailloux, c'est pour ça que des fois on sourit par rapport aux ailettes ou aux moulins, lorsqu'ils vont manger des cailloux, ça va leur faire drôle. Quoi.
Ironique le pêcheur, et pourtant il confirme, il y a bien eu concertation avec le comité des pêches et la zone d'expérimentation a été durement négociée.
Pour l'instant, on en est uniquement dans la concertation pour ce qui concerne les fermes pilotes. Donc il est bien entendu que la zone a été dûment discutée avec les professionnels, ça c'est vrai, pas de souci. Il y a eu des concertations au comité régional avec les professionnels qui travaillent dans la zone, parce qu'il y a du travail dans la zone. C'est une zone fortement peuplée de homards et de crustacés en général, c'est-à-dire le tourteau, de l'araignée, du homard, et puis des fois aussi quelques passages de chalutiers. Dans la zone exclusive, dans le cadre des fermes pilotes, c'est uniquement des casiers. Il est bien évident que cette zone-là va être complètement perdue par les professionnels. Maintenant, si l'expérience est concluante, là, ça sera un autre débat d'une autre ampleur concernant effectivement la grandeur de ferme, pour du coup, dans le cadre d'une exploitation industrielle. Et là, c'est pas gagné pour les promoteurs.
Ni pour les pêcheurs.
Les pêcheurs ont trop à perdre. Si tout ça est maîtrisé et qu'on se lance à l'échelle industrielle, ça va changer beaucoup de choses de la part des professionnels qui sont pas forcément prêts à accepter tout et n'importe quoi.
Pas gagné donc pour le constructeur.
ni pour l'énergéticien, car comme pour l'éolien, les procédures d'autorisation sont longues. Le directeur des infrastructures marines chez DCNS, Thierry Calenquin, le sait. Et c'est pourquoi, parallèlement au développement en France, il vise d'autres marchés.
C'est vrai qu'en France, on a une certaine complexité administrative, là où d'autres pays pratiquent ce qu'on appelle le guichet unique, c'est-à-dire qu'on a un interlocuteur, souvent régional, qui est notre bureau des demandes pour tout ce qui concerne les permis, les autorisations d'exploiter, tout ce qui va être négociation tarifaire. En France, on s'adresse à une multitude d'administrations et c'est un peu aux industriels de coordonner l'action de ces administrations, de les aligner. Et ça peut être compliqué.
Ça peut être lent alors qu'il faut être les premiers sur le coup.
Effectivement, il y a une course de vitesse et en tant qu'industriel, on ira là où on aura nos premiers débouchés. Donc on est un groupe français, donc on fait le maximum pour que la filière industrielle en France soit dans les premières à éclore, mais on ne pourra pas, comme nos hydroliennes, lutter contre le courant. Donc on ira forcément là où les marchés émergeront en premier.
Et parmi ces marchés, il y a le Canada, où circule le courant le plus puissant au monde. C'est dans la baie de Fundy, un bras de mer situé sur la côte atlantique, à l'extrémité nord du golfe du Maine.
Au Canada, nous avons le projet jumeau de celui que nous faisons en France. Donc nous avons les mêmes machines que nous sommes en train de construire au Canada. Nous construisons aussi la même barge et nous avons le projet de mettre ces turbines à l'eau en Nouvelle-Écosse, dans la baie de Fundy, donc dans un des endroits les plus énergétiques en courant de la Terre, puisque c'est là où on a les plus grosses marées du monde. Hein. On a du 11 mètres de marnage, donc c'est des courants fantastiques. Et donc on va tester nos machines dans ces, entre guillemets, plus forts courants de la Terre. Et donc c'est un projet qu'on mène à bien en ce moment et on devrait déployer nos machines dans les prochains mois en baie de Fundy.
Car c'est une course de vitesse pour trouver la meilleure technologie, celle qui sera la plus rentable. Et tout en ayant le deuxième domaine maritime au monde après les États-Unis, la France a de redoutables concurrents.
Il y a une compétition entre les pays, entre le Royaume-Uni, la France, le Canada, le Japon et un certain nombre de pays. Essaye d'attirer ces nouvelles filières industrielles et d'être dans les premiers afin d'en tirer le maximum de profits industriels et en production d'énergie. Il y a une compétition entre industriels, il y a une compétition entre les pays, il y a une compétition entre les énergéticiens. Après, c'est une compétition qui se fait dans la durée. Donc c'est bien aujourd'hui d'installer des fermes pilotes en France, hein, ces fermes de démonstration. Mais ce qui va être important pour les industriels, c'est bien sûr les fermes commerciales et dans quel horizon elles existeront.
Mais finalement, qui gagnera? Quelle technologie remportera la compétition? Ce sont les exploitants qui décideront. D'où cette question au directeur des énergies nouvelles d'EDF, Pierre-Guy Théron, sur quelle technologie pariez-vous?
Toutes les technologies ont leur rôle à jouer, c'est pour ça que je répondrai pas directement, je répondrai en fonction de la courbe d'apprentissage, mais je dirais une évidence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'éolien terrestre et le photovoltaïque sont les plus matures. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous développons en priorité à EDF Énergie Nouvelle, quand on regarde les volumes. L'éolien offshore est en train de passer à stade industriel. Donc nous accélérons en termes de volume sur l'éolien offshore. Trois parcs de 500 MW, c'est quand même considérable, puisque ça représente mis bout à bout une tranche de centrale nucléaire. L'hydrolien viendra derrière à un stade de maturité différent et on jouera également son rôle dans le mix énergétique. Donc je dirais, j'ai pas de bébé favori réellement. Toutes les technologies arrivent les unes après les autres et elles sont toutes nécessaires et toutes utiles.
Thank you.
cap au nord, toujours pour refermer ce magazine. Nous allons cette fois chez nos voisins belges. Des voisins qui, eux aussi, possèdent un littoral dont ils ont bien l'intention de tirer les bénéfices énergétiques. D'autant plus que l'extension des éoliennes terrestres en Belgique se heurte de plus en plus à des résistances de la part des riverains. Cela fait déjà longtemps que les autorités belges développent les parcs d'éoliennes en mer. Françoise Gillin, notre consoeur de la RTBF, accompagnée de Julien Bader, nous fait visiter l'un de ces parcs installés au large de Zeebrugge.
Ça semble petit sur une carte, mais nous avons déjà installé au-dessus de 500 MW en turbine dans cette zone. Et juste pour comparer, la centrale nucléaire de Doel 1 fait 400 MW de capacité de production.
Frank Koenen est un des pionniers de l'éolien offshore en Belgique. Depuis 15 ans, il se bat avec la société Parkwind pour installer des turbines en mer. Et le résultat est là, impressionnant.
C'est énorme. Si on inclut les fondations, plus les turbines et les pales, on arrive à une construction d'au-dessus de 220 mètres, ce qui veut dire qu'on placerait l'atomium au-dessus de la cathédrale d'Anvers. C'est gigantesque à installer. C'est pour ça que nous avons développé des techniques très spéciales pour les installer. On arrive à des dimensions énormes et donc ces pales prennent beaucoup de vent et donc produisent beaucoup d'électricité.
183 turbines sont déjà installées en mer du Nord. Elles produisent l'électricité de 700 000 ménages et elles seront deux fois plus nombreuses dans les années à venir. Jack Rutten dirige Sea Power, le premier parc offshore de Belgique.
On se trouve ici dans notre salle de contrôle, à partir d'où nous contrôlons tout ce qui se passe dans notre parc éolien.
VFC for Alpha 5.
Et où nous faisons toutes les manœuvres nécessaires pour optimiser la production. Donc on peut voir combien chaque turbine produit à ce moment-ci, combien le parc produit.
Et les opérateurs ici, qu'est-ce qu'ils font alors?
Si nécessaire, ils peuvent arrêter une turbine pour aller voir s'il y a un certain danger ou quelque chose comme ça. Donc on peut régler le parc à partir d'ici.
Et parfois il y a des pannes?
Ça arrive, parce que ce sont des machines qui tournent et qui se trouvent dans un milieu très agressif avec du vent, avec chaque turbine, c'est une usine spécifique. Hein.
Alpha 5 for VMC.
Et le rendement n'est pas toujours assuré. Comme en octobre, il y a eu deux fois moins de vent que prévu, la production électrique s'en est ressentie. Mais elle va augmenter avec les nouveaux parcs et le gestionnaire du réseau Elia doit renforcer ses installations pour y faire face.
Ici, nous sommes à Zeebrugge où on réalise maintenant le poste Stevin qui est vraiment le nœud pour la connexion des parcs éoliens en mer.
Ariane Mertens est chef de projet chez Elia. Elle gère cet énorme chantier qui mobilisera 25 entreprises sur 2 ans.
C'est impressionnant. Nous, on est l'entreprise qui va monter les pylônes hein, et on va dérouler les câbles.
Et c'est énorme, hein?
Oui, c'est énorme.
C'est du solide.
C'est vraiment le plus gros projet d'infrastructure en Belgique, qui servira à rapatrier l'énergie qui sera produite par les éoliennes offshore qui sont en mer.
Sophie De Batz, responsable communication chez Elia.
Donc pour que toute la Belgique puisse bénéficier d'une part de cette énergie renouvelable en mer et d'autre part des imports de l'Angleterre, le projet Stevin était vraiment un gros tronçon qu'il fallait renforcer pour rapatrier l'énergie de la côte ou l'Angleterre en Belgique.
C'est un projet de 300 millions d'euros. Il faut dire que tout ce qui touche à l'éolien offshore coûte cher. La construction d'un parc d'une cincantaine de turbines revient à plus d'1 milliard d'euros. Jean Deleu préside la plateforme belge des investisseurs. Il sait que l'investissement est risqué.
Moi, j'ai l'habitude de dire que construire un parc éolien, c'est un peu vivre l'aventure de Tintin qui partait sur la Lune. Il y a effectivement énormément de risques puisqu'on est en mer et qu'on travaille dans des situations qui sont parfois inconfortables, tant pour la construction que pour l'entretien de ces parcs. On peut raisonnablement espérer que la durée normale de vie sera de 20 ans, et puis on verra. Tout dépendra de voir, est-ce que ce seront les turbines qu'il faudra remplacer en récupérant les fondations existantes? Est-ce que les équipements électriques pourront être récupérés? C'est un peu encore l'inconnu, puisqu'il n'y a aucun parc si ce n'est au Danemark, qui soit âgé de plus de 15 ans, je pense.
L'éolien offshore est une technologie en plein développement. Le professeur Damien Ernst de l'Université de Liège estime qu'elle doit encore faire ses preuves.
C'est une très jolie technique, en tous les cas, mais ce ne sera réellement qu'une technique d'avenir, donc un secteur qui saura se développer de par lui-même, si dans les années à venir, il arrive à diminuer significativement ses coûts.
Ça veut dire quoi concrètement ?
Ça veut dire que maintenant, pour l'éolien offshore belge, on est à des coûts totaux de 160 euros par mégawatt-heure.
Et c'est cher, ça ?
C'est cher, c'est trop cher, parce que le coût sur les marchés de gros est de l'ordre de 45-50 euros par mégawatt-heure. Mais maintenant, c'est aussi une nouvelle technologie, c'est un secteur assez jeune, en fait, l'éolien offshore. Il faut lui donner une certaine chance au niveau subsidiation. Mais s'il n'arrive pas, dans les 5-6 années qui viennent, à passer sous la barre des 100 euros par mégawatt-heure, l'éolien offshore risque d'arrêter sa croissance.
Les innovations technologiques permettront de réduire les coûts. Les industriels en sont convaincus. C'est le cas de Luc Vandenbulk de la société Geossi, qui exporte déjà son savoir-faire dans les pays voisins.
L'Europe est loin devant dans ces technologies. Quand on voit par exemple le Danemark, où on est maintenant à plus de 30% de l'énergie qui vient de l'offshore, vous voyez que c'est devenu une source d'énergie très importante.
La Belgique est quatrième dans la classe européenne, mais première en nombre d'éoliennes offshore par habitant. Pour Alain Bernard, patron de la société de dragage Démé, c'est le fruit d'une longue histoire.
La Belgique est un pays maritime. Il y a très peu de gens qui le savent. On a des grandes rivières, on a des grands ports. Donc on a des grosses entreprises maritimes. Il n'y a pas uniquement, je dirais, les dragueurs. On a CMBO, on a des grands bureaux d'études très connus. Des universités, on a un cluster de sociétés maritimes assez performant, pas uniquement en Flandre, mais aussi en Wallonie. Donc, c'est pas parce qu'on a une petite côte de 70 km qu'on n'est pas capable d'être le numéro un au monde. Hein.
Quatre pays, quatre façons, souvent voisines, de considérer la transition énergétique. Ainsi s'achève cette émission spéciale consacrée au changement climatique, à une semaine de l'ouverture de la Grande Conférence Internationale de Paris. Cette émission a été coordonnée par Annette Ardisson avec nos amis des radios francophones publiques de Suisse, de Belgique et du Canada. Anne Liorot a réalisé cette émission avec l'aide de Stéphane Combe et Zora Ben-Smaili. Mixage Pascal Bénard. À la semaine prochaine.